Alors bonsoir à tous. Je suis heureuse vraiment de participer à cette ouverture d'un cycle de lecture biblique et surtout dans cette salle. Je vais vous dire pourquoi à un moment de mon exposé. Mais j'ai quand même été étonnée du choix. Alors le livre de Judith. Le livre de Judith, c'est le plus inclassable presque de tous les livres bibliques. Il est donc d'un accès particulièrement difficile puisqu'on ne connaît ni l'auteur, ni la date, ni le milieu qui l'a produit, vous l'avez dans les repères que j'ai mis en tête de l'affiche, et qu'en fait, le premier repère historique que l'on ait, ou culturel que l'on ait, c'est qu'il était connu et lu des chrétiens à la fin du 1er siècle de notre ère, au moment où sont écrits, si vous voulez, l'Évangile de Jean et l'Apocalypse joannique. C'est ce dont témoigne donc Clément de Rome dans un extrait que vous avez à la fin de la seconde page. Donc c'est un livre qui est porté par des lectures chrétiennes et par la tradition chrétienne. Et pourtant c'est un livre dont le personnage éponyme, Judith, est la personnification de la Judée. Puisque Judith, ça veut dire la juive, ou plutôt la judéenne. Il ne s'agit pas dans le livre de Judith d'appartenance religieuse, juif et non-juif, mais beaucoup plus d'appartenance ethnique. C'est un des problèmes dans les traductions de la Bible, et du Nouveau Testament surtout, comment traduire judaïen, juif ou judéen. Et là, dans le cas du livre de Judith, certainement au sens de judéen qu'il faut comprendre de judaïa, ou le nom propre de Judith, donc, elle personnifie une nation. Et cette nation, historiquement, à ce moment-là, c'est la Judée. Donc, c'est le second paradoxe. Un livre autour d'une figure personnifiant la Judée, mais gardée dans la tradition chrétienne. Alors maintenant, la figure de Judith. Alors évidemment, c'est une figure célèbre entre toutes les femmes de la Bible. Et en témoigne donc le tableau du Caravage qui a été choisi pour l'affiche. Mais pour reprendre le titre d'un livre, d'un essai américain, la célébrité de Judith, c'est quand même une célébrité sur le fil du rasoir. C'est la célébrité d'un chasseur de tête, comme disaient les Romains, les plus grands historiens romains, à l'époque, aller couper des têtes et surtout rapporter des têtes, rapporter la tête qu'on avait coupée, était très prisé comme signe de gloire, de victoire et de courage. Et Judith, à la fin du récit, donc rapporte la tête de l'offerde qu'elle a coupée. Donc effectivement, une célébrité, je dirais, sur le fil du rasoir, surtout à notre époque, vous penserez comme moi, que l'égorgement n'est plus un fantasme imaginaire, comme peut-être au temps du Caravage, mais une réalité souvent, a eu une réalité très dure ces dernières années. Donc tout cela fait que c'est très paradoxal, et j'ai trouvé vraiment que c'était un choix difficile. Et tout ce que je viens d'évoquer ouvre évidemment à l'idée que de multiples lectures du livre de Judith sont possibles. C'est ce que je vais m'efforcer de classer. Et je vais commencer donc par la question qui me paraît être la question de base. Est-ce qu'il faut commencer par faire une lecture historique du livre de Judith et donc commencer par contextualiser ce livre historiquement avant d'en commencer une lecture croyante ou une lecture spirituelle à différents niveaux? Alors faire une lecture historique de la Bible, d'un livre de la Bible en particulier, ou de la Bible dans son ensemble, c'était souvent ce qui était proposé autrefois, et ce dont rendent compte encore les éditions anciennes, les présentations anciennes de la Bible. Il fallait lire la Bible de A à Z, c'est-à-dire du livre de la Genèse à l'Apocalypse joannique. Et pourquoi de A à Z? Parce qu'évidemment, ça se présente un peu comme une histoire universelle, depuis les origines du monde jusqu'à la fin du monde, puisque les chrétiens en 95 l'attendaient immédiatement pour le lendemain. Donc ça se présente, bien que tout le monde sache, vous comme moi, que la Bible n'est pas un livre, la juxtaposition, l'assemblage de tous les livres bibliques pouvait donner à penser qu'il fallait le lire comme une histoire universelle, c'est dans une perspective diachronique. Et à ce moment-là, donc, le livre de Judith en particulier, il prend une place très précise dans cette lecture diachronique, puisqu'il est dit dès le début donc, que l'invasion qui menace grandement le peuple de Judée, c'est l'invasion assyrienne. Donc, pour vous situer un peu les choses, à moins que vous l'ayez revu en ouvrant le livre, Donc, l'Empire assyrien, grosso modo, c'est le 8e siècle, le début du 7e. C'est antécédent donc à l'Empire babylonien, représenté par Nabucodonosor, lui-même antécédent à l'Empire perse, Cyrus et les autres, lui-même antécédent au royaume hellénistique issu de l'Empire d'Alexandre, et finalement à partir de l'Empire romain. Et il est vrai donc que cette succession des empires, ce thème de la succession des empires, donc incitant à faire une lecture diachronique des livres bibliques, est très présent dans la littérature biblique, donc les derniers siècles avant notre ère, à partir du livre de Daniel surtout, qui a été composé donc dans son état actuel en 164. Donc, le livre de Judith, tel qu'il se présente, c'est un moment de l'histoire de la Judée dans l'Empire assyrien. Mais alors, dans la première partie, qui présente donc cette invasion et ce conflit, des chapitres 1 à 8, on découvre tout de suite que on n'est pas dans l'histoire, c'est un village de nulle part. Plus je lis le livre de Judith, plus je me dis que Béthulie, le village de Judith, c'est exactement le même cas de figure que le village d'Astérix. Le petit village qui fonctionne comme un îlot de résistance dans une marée donc d'envahisseurs. Et c'est aussi donc un livre qui est hors du temps, parce qu'on est censé être à l'époque assyrienne, mais le roi régnant, c'est Nabucodonosor, donc l'empire babylonien, l'empire suivant, et l'histoire globalement est racontée à la manière perse, comme une histoire perse. Et le nom d'Holoferne, le général que Judith va égorger, porte un nom perse. Donc on est hors de l'histoire. Pas tout à fait, cependant. Il y a un registre, il y a un registre d'historicité. C'est souvent ça dans les livres bibliques. Il faut chercher où se trouve le registre d'historicité. Les exégètes font ça de plus en plus et ce n'est pas toujours évident. Donc là, où est-ce qu'il est dans le livre de Judith, le registre d'historicité, c'est-à-dire le moment où on peut quand même inscrire quelques données du livre dans un contexte historique précis, c'est dans ce qu'on appelle la polémologie. C'est-à-dire la façon de faire la guerre. Il y a la première partie du livre. Et cette façon de faire la guerre, de mener une guérilla villageoise contre une grande armée rassemblée, donc par le vocabulaire, par la tactique, par la stratégie, par tout ce que vous voulez, renvoie très précisément donc à l'époque de la révolte de la Judée contre l'occupation grecque d'un roi de Syrie, Antiochos IV, donc un successeur d'Alexandre. Et la répression donc qu'il a fait peser sur le judaïsme et la désacralisation dont on s'est rendu coupable du temple de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle la crise maccabéenne. Et donc c'est à partir de là, c'est là qu'on trouve un élément d'historicité qui permet donc de rapporter le contexte dans lequel fut élaborée cette histoire de Judith dans les années 170. 160, plutôt d'ailleurs 168, 160 avant notre ère, au moment donc de la crise maccabéenne, dans un contexte de persécution, de ralliement aux dominateurs d'un côté et de résistance donc à la persécution de l'autre. Donc vous voyez que pour le cas du livre de Judith en particulier, c'est tout à fait un non-sens que de vouloir commencer par une lecture culturelle et historique. La contextualisation historique n'apporte rien. Et en général, c'est le cas aussi si on envisage une lecture diachronique, encore une fois, de l'ensemble des livres bibliques. Ça bute sur quoi? Ça bute sur le fait que, contrairement à une histoire universelle de l'Antiquité, comme la Bibliothèque historique de Diodore, par exemple, vous voyez sur la fiche, les livres ne s'enchaînent pas naturellement les uns aux autres. Dans la Bible hébraïque, vous avez déjà trois recueils, la Torah, les prophètes et les autres écrits. Donc il y a des subdivisions qui ne donnent pas beaucoup de sens à une lecture diachronique. Et puis ensuite, il y a la diversité des genres littéraires, dont vous avez évidemment une idée. Et il n'y a jamais eu d'écriture unifiante de cette hétérogénéité des modes d'écriture et des genres littéraires. ou plutôt celui qui l'a fait, c'est l'historien juif Flavius Joseph, dans ces mêmes années, les années 90, donc, qui a paraphrasé donc, la Bible hébraïque depuis la Genèse sous la forme d'une histoire ancienne des Juifs, les antiquités judaïques. Mais ce n'est pas le cas donc, des Bibles, quelle que soit la présentation actuelle. Donc, le livre de Judith, il faut le lire comme hors du temps et pas inscrit non plus dans un espace très précis. Donc, il faut le lire comme un livre d'actualité écrit par un juif pour les juifs de Judée en un temps de persécution et de résistance. Alors, le paradoxe, évidemment, c'est que ce livre juif écrit pour les juifs n'était pas retenu dans la Bible hébraïque. Vous savez, les composantes donc, de la Bible hébraïque sur l'affiche, mais seulement dans la Bible en grec des Septante. On n'a pas de version en langue sémitique en araméen avant le IVe siècle. Et on n'a pas de manuscrit en hébreu du livre de Judith avant le XVIe siècle, l'époque du Concile de Trente. Vous voyez que c'est paradoxal, donc, pour un livre qui est l'exaltation de la Judée personnifiée. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il a été conservé par les églises chrétiennes dans une situation particulière, parce que vous voyez aussi qu'il est sur votre fiche, qu'il est dans l'Ancien Testament, tel qu'il sera rassemblé et composé à partir de la fin du IIe siècle, mais non pas évidemment dans la partie de la Bible hébraïque, dans la partie d'autres livres juifs écrits en grec, alors que les catholiques appellent deutérocanonique, ce qui est une appréciation positive des livres qui ont un caractère normatif, parce qu'ils ont un caractère inspiré, mais à un deuxième niveau, à un niveau inférieur. Et cette catégorie-là, donc, de livres normatifs, mais pas autant normatifs que les livres fondateurs, a été élaborée donc, par les pères de l'Église et par des exégètes comme Origène, par exemple, Origène d'Alexandrie, fin deuxième et troisième siècle. Et sous le titre nettement plus flatteur d'agiographe, d'écrit sacré, d'écriture sainte, si vous voulez. Donc, dans les Bibles catholiques, ce sont les deutérocanoniques. Les Bibles protestantes, elles, ont utilisé longtemps le nom de nettement plus dépréciatif d'apocryphe. Mais maintenant, les protestants aussi parlent plus souvent de deutérocanonique. Et l'appellation laïque, culturelle, je dirais, qui est le titre d'un volume de la Pléiade, c'est écrit intertestamentaire, ce qui me paraît beaucoup plus juste, mais qui situe bien, donc vous voyez, cette fois-ci, le livre de Judith dans une perspective diachronique. Ce n'est pas la Bible hébraïque telle qu'elle se compose au retour d'exil, c'est évidemment pas le Nouveau Testament. C'est une expression donc, du judaïsme et de la foi qui se met en place, qui s'exprime donc au tournant de notre ère, en référence donc à une expérience particulièrement grave et douloureuse de persécution et de résistance, qui a été celle de la crise maccabéenne. Cela étant donc, pourquoi les avoir gardés ces deutérocanoniques ? La réponse officielle qui a été donnée, légitimée par le Concile de Trente, donc à l'époque moderne, c'est à cause des prières qu'il transmet. Et il y a deux grandes prières dans le livre de Judith, que j'ai proposé de lire si vous vouliez en prendre un petit peu une première appréciation. Donc, des modèles de prières que les premiers chrétiens ont cherchés et qu'ils ont trouvés là. Ça, je dirais, c'est la raison officielle de la canonicité. Mais pour les premiers chrétiens, et je reviens encore au témoignage de Clément de Rome dans les années 90, que je reprendrai tout à l'heure, pour les premiers chrétiens, c'est plutôt l'exemplarité. C'est l'idée donc de préfiguration du christianisme, de figure donc qui annonce, qui anticipe donc la figure du Christ ou celle du chrétien. Donc on ne peut pas lire le livre de Judith comme un livre d'histoire. Il faut le lire comme un roman, même si peut-être ça vous a choqué en lisant ça, donc quand vous avez pris la feuille. Il faut le lire comme un roman, parce qu'il y a tous les ingrédients donc d'un roman. Une héroïne, un peu de sexe et beaucoup d'exotisme, un peu d'aventure, de grands dangers, et aussi, on est encore une fois hors du temps et de l'espace. Il ne manque qu'une seule chose parmi les quatre pour bien faire coller le livre de Judith dans les catégories du roman antique. Il n'y a pas de voyage. Dans tous les romans antiques, les héros passent leur temps à se déplacer d'un bout à l'autre de la Méditerranée. Judith, elle, c'est paradoxalement, c'est encore une différence. C'est une héroïne locale dans son village de Judée. Je vous dis, comme le village d'Astérix, tout se passe là et on n'en bouge pas. Le reste du monde n'existe guère. Donc, il y a tous les ingrédients du roman antique, sauf un, celui du voyage. Et la catégorie du roman antique, du roman biblique même, plus précisément, a été proposée, identifiée, proposée par des érudits allemands et en France par le père Festugière, un dominicain qui était un excellent helléniste, dans les années 1960. Et peut-être certains d'entre vous connaissent, les antiquistes, il y a des hellénistes parmi vous, connaissent la première édition des romans grecs et latins par Pierre Grimal dans la Pléiade, qui date de 1958. Donc, c'est à partir des années 60, 1960, qu'on s'est mis à identifier et à étudier ce qu'on pouvait tirer donc, de ce genre littéraire du roman. Alors, c'était des textes qu'on connaissait bien sûr, ce n'est pas des textes nouveaux. C'était des textes qu'on connaissait bien, mais qu'on méprisait comme sous-littérature, quoi, littérature de Kierkegaard, si vous voulez. Ce qu'il y avait dans les actes des apôtres, ces gens qui sont comme des semences, des paroles de perroquet qu'on raconte partout. Donc, en fait, on a pris conscience de l'intérêt de cette documentation, de ces textes-là, à partir du moment où on a compris qu'il ne fallait pas évaluer les textes grecs de l'époque impériale sur le modèle de Démosthène ou de Cicéron. Donc émerge le roman et on a travaillé beaucoup, nous ici en particulier, j'étais ici, enseignante ici à ce moment-là, donc, et dans cette salle, on a réuni en 87, 1987, un colloque donc sur le monde qui a été publié sous le titre Le monde du roman grec, où on s'est intéressé. On n'était pas les, on n'a jamais été les seuls, mais on a été presque les premiers, où on s'intéressait donc au rapport du roman, de l'écriture romanesque, avec la diffusion d'une religion, avec la diffusion d'une foi. Et on n'a pas vraiment travaillé sur la catégorie des romans bibliques, mais sur la catégorie des romans juifs et des romans chrétiens, dont évidemment les Vitsa sont l'aboutissement tout à fait naturel. Alors, dans le développement de toutes ces études qui ont marqué la fin du XXe siècle, le plus intéressant, le plus significatif et le plus étonnant aussi, c'est que tous les romans antiques, qu'ils soient juifs, grecs ou chrétiens, ont une finalité religieuse. Le couple de héros ou le héros individuel comme Judith se promène d'un bout à l'autre de son histoire, vit ses épreuves et se balade dans le monde sur un itinéraire qui est en même temps un itinéraire initiatique et un itinéraire de conversion. Si je prends quelques exemples pour vous le montrer, exemple de roman grec, Les Éthiopiques, le couple de héros est voué à la religion delphique, à la religion d'Apollon, donc, et va faire un parcours initiatique pour passer du culte delphique proprement grec au culte du soleil divinisé dans une dimension universelle. Si je prends un roman latin, peut-être bien mieux connu, Les Métamorphoses d'Apulée, le héros, lui, qui est un individu, donc, fait un parcours carrément initiatique pour retrouver le culte d'Isis, la déesse égyptienne, et le dernier chapitre, le dernier livre qui est très beau. Donc, il y a une révélation, l'apparition d'Isis, et c'est l'accomplissement donc de sa conversion. Si je prends maintenant donc un roman juif, en dehors donc des romans bibliques, C'est un roman donc écrit en Égypte, intitulé Joseph et Asséné. Alors, c'est une variante sur l'histoire du patriarche Joseph, fils de Jacob, dont la fille d'un prêtre égyptien, rien que ça, tombe amoureuse, c'est le coup de foudre, quoi, au premier regard, mais avant qu'elle l'épouse, donc, elle doit faire tout un itinéraire de conversion pour adhérer donc à la religion de son mari. Et donc, il y a un thème religieux dans tous les romans antiques que nous connaissons. Alors, on discute sur leur objectif réel. Certains de mes collègues les qualifient de romans pieux, c'est-à-dire qu'il s'agirait de montrer la religion que l'on pratique, celle où l'on adhère sous sa meilleure forme. D'autres vont jusqu'aux romans missionnaires, des romans donc qui seraient destinés à faire des conversions. Et si vous avez feuilleté le livre de Judith, vous voyez que ces deux dimensions sont coexistantes sans qu'on puisse choisir. C'est un roman pieux en ce sens que plusieurs passages que vous avez peut-être retenus insistent sur le vivre en juive exemplaire que représente Judith. Elle mange cachère, elle se purifie chaque jour, elle prie chaque jour, elle est attachée au temple et même depuis son veuvage, elle mène elle observe un judaïsme que je qualifierais de radical. Elle fait retraite sur le toit de sa maison, à l'écart du monde, pour prier, pour consacrer sa vie à la prière, et elle porte un cilice. Donc, il y a bien une question de montrer le judaïsme un idéal de mode de vie en juif. Et le livre insiste sans cesse là-dessus. Tout le monde reconnaît la piété de Judith. Personne ne la discute. Donc il y a bien cette dimension roman pieux. Mais il y a aussi, on l'oublie trop souvent, il y a aussi une dimension missionnaire. Non pas Judith elle-même, Judith évidemment la résistance c'est le thème principal, mais vous avez en thème secondaire donc la question de la conversion à travers Achior. Alors Achior donc, c'est un transjordanien qui arrive dans le village de Judith. Et donc, il fait tout un parcours au fil des événements, il fait tout un parcours de conversion en plusieurs étapes. Ce qui est toujours comme ça que la littérature juive de l'époque nous montre les choses. D'abord, il a une culture biblique, il a lu la Bible, il est capable de la résumer en holoferne. Et la lecture de la Bible, ou l'audition de la Bible, à cette époque-là, enfin la connaissance de la Bible, lui fait prendre conscience de ce que c'est que le monothéisme. Ça, c'est la première étape. Et puis la seconde étape, donc après l'exploit de Judith, l'égorgement de l'Holoferne, il demande une catéchèse à Judith. Raconte-moi. Hein, comme dans les Actes des Apôtres, l'Éthiopien qui demande à Philippe, raconte-moi. Paul catéchisé à Damas après sa vision. Et même les disciples d'Emmaüs demandant au Christ, raconte-moi, raconte-nous ce qui s'est passé. Donc il reçoit une catéchèse de Judith. À ce moment-là, il fait une profession de foi. Et il est circoncis pour intégrer totalement donc la communauté juive. Donc les deux dimensions sont bien présentes dans le livre de Judith. Roman pieux, un modèle de judaïsme, et aussi roman missionnaire avec cette dynamique de la conversion. La seconde conversion, c'est encore plus étonnant, en horizon lointain, c'est la conversion de Holoferne lui-même qui l'envisage, celui qui sera décapité. Hein. Et en reprenant l'auteur du livre de Judith, met dans sa bouche cette très belle formule du livre de Ruth, qui est un livre de la Bible hébraïque, Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et ça confirme d'ailleurs une construction qui est celle des biblistes, que le prototype du roman juif, sinon du roman antique dans son ensemble, ce serait le livre de Ruth dans la Bible hébraïque, une toute petite histoire. Vous la connaissez sans doute, une veuve qui doit se remarier, qui doit retrouver un état, et qui va aller glaner et se coucher auprès de Boaz qu'elle veut épouser pour l'amener au mariage. Donc, on voit bien que le livre de Judith y fait écho. Alors, évidemment, la question, pourquoi utiliser le genre romanesque, l'écriture romanesque, pour faire passer un message de foi? Les biblistes, en général, se réduisent à une explication simple ou simpliste, comme vous voulez. Donc, il s'agit d'enseigner, de catéchiser en distrayant. Profit with delight. Instruire en distrayant. Dans le cas particulier du livre de Judith, les exégètes et les historiens juifs vont encore plus loin en développant donc ce qu'ils appellent l'ironique séorée. Là, ça fait penser davantage à Woody Allen, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que toutes les aberrations, les incohérences, les fantaisies du livre de Judith, ça se passe nulle part et dans un univers imaginaire, ça serait de connivence, ce serait l'établissement d'une connivence entre l'auteur et son lecteur. Tout le monde sait que Nabucodonosor n'est pas un roi syrien. Donc en fait, ce serait des erreurs délibérées, des fantaisies délibérées pour établir une cohérence entre l'auteur et son lecteur. Et cette connivence donc permettrait de présenter le message religieux en prenant suffisamment de recul. Voilà ce que c'est, comment je perçois le judaïsme tel qu'il devrait être vécu, mais je m'en moque en même temps. Donc, prenez ce que vous voulez, je vous dis, c'est évidemment des juifs américains qui défendent cette théorie, et cette ironique théorie, et vous avez derrière, donc, plus ou moins, le personnage de Woody Allen. Moi, j'en resterai une explication plus simple, c'est que depuis le livre biblique de Ruth, tous ces romans traitent de la conversion, dans le cas de mariage, presque tous, dans le cas de mariage mixte. Parce que c'est évidemment à ce niveau-là que dans l'Antiquité se posait la question de la conversion. C'était jamais des, on n'a pas d'exemple de conversion collective de tout un peuple avec son roi. Mais c'était des conversions individuelles et l'occasion était le mariage mixte. Et donc, le mariage mixte, c'est une situation romanesque et elle a pu donc développer ce mode d'écriture romanesque qui est reprendre le genre du roman. Je voudrais surtout que vous reteniez ce qui est déjà une leçon ou un principe de lecture énoncé par Vatican II quand il traite, par une constitution de Vatican II quand il traite de la Lectio Divina. Et il dit ce qui me paraît assez moderne, il y a 50 ans, donc pour l'époque, pour entrer dans une lecture croyante, dans la Lectio Divina, il ne faut pas faire l'économie d'entrer d'abord dans l'écriture du livre. Et dans son genre littéraire. C'est une condition donc d'une lecture biblique plus riche et le point sur lequel je vais aborder maintenant dans ma troisième partie. Donc, pour une lecture biblique, on arrive quand même à ce que vous devez penser être l'essentiel de notre propos et de notre réflexion ce soir. Donc, une lecture biblique du livre de Judith. Et je dirais donc que le livre de Judith représente sans doute, autant c'est un livre inclassable et difficile et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il représente sûrement le livre le plus facile d'employer cette lecture qu'ont mise au point, que conseillent aujourd'hui les biblistes, une lecture par l'intertextualité. C'est-à-dire que, après avoir compris, avoir mis en évidence que la lecture diachronique, comme je le disais, c'est-à-dire lire la Bible d'un bout à l'autre, n'avait pas beaucoup de sens dans la plupart des cas, il est au contraire très efficient de parcourir la collection des livres bibliques, de parcourir, si vous voulez, l'univers biblique en passant d'un livre à l'autre. C'est ça l'intertextualité. Et c'est-à-dire en étant sensible à des rapprochements, à des associations, soit de vocabulaire, c'est le plus facile, soit de thèmes ou de situations, vous allez le voir tout de suite, ça aussi c'est assez facile. Donc, procéder par association, naviguer en quelque sorte dans le monde biblique et dans la collection des livres bibliques par l'intertextualité. Et donc, c'est fondé sur des répétitions plus ou moins évidentes. Et pour le faire, donc, vous êtes aidé par la présentation de toutes les Bibles actuellement, donc les références, dès qu'il y a une citation, elle est en italique, à notre livre biblique, elle est en italique. Et dès qu'il y a une association qui pourrait construire cette approche par l'intertextualité, vous avez la référence donc dans les marches. Et c'est l'intertextualité du livre de Judith est rendue évidente par ce qui est vraiment la clé de lecture. La clé de lecture, c'est ce qu'Omblin a utilisé donc pour l'affiche, c'est cette formule par la main d'une femme. Parce que cette formule par la main d'une femme, elle revient donc comme un leitmotiv dans des endroits très importants et liturgiques, je dirais, à la fois croyants et liturgiques. La prière de supplication de Judith au chapitre 8, le grand psaume d'action de grâce de Judith au chapitre 16, entre autres donc le compte-rendu par Judith de son ou fait associé à une courte action de grâce au chapitre 13. Donc, cette formule par la main d'une femme, elle apparaît trois fois. Et elle est personnalisée, donc, si j'ose dire, par quatre autres reprises, par ma main, par ma main, par ma main et par sa main. Donc, vous voyez, c'est une formule qui vraiment fonctionne en leitmotiv. Et pour celui qui a la Bible dans la tête, comme on l'avait à l'époque, et jusqu'à une date assez récente, et qui prie la prière de Judith, pour lui, donc, cette formule par la main d'une femme, ça renvoie tout de suite à un cantique et à un récit fondateur de la Bible hébraïque, au livre 4, donc, des Juges. Alors, le livre des Juges, donc, qui raconte dans la trame événementiel, sinon historique, c'est l'entrée des Hébreux en Palestine, après Josué. Donc, le livre des Juges donc, montre une situation analogue à celle que reprend le livre de Judith, sous un couple du juge, Déborah et Barak. Là, vous voyez, déjà une femme, Déborah, qui émerge, hein, comme Judith. Sous le couple de juge, Déborah et Barak, l'invasion menace tout le peuple d'Israël, l'invasion ennemie menace tout le peuple d'Israël. Et l'arrêt de ce danger vient de la mise à mort du général ennemi, Sisséna, par une femme, Yaël. Donc l'exploit, la femme qui met à mort celui qui menace la liberté et même la vie de son peuple. Et donc, dans ce livre des juges, donc, dans cet épisode, celui de Déborah, vous retrouvez le même leitmotiv, d'une façon ou d'une autre, par la main d'une femme. La formule « c'est aux mains d'une femme que sera livré Sisséra », c'est un oracle de Déborah, parce que ces juges sont également des prophètes, là, c'est le début donc, de la littérature prophétique dans la Bible hébraïque. Donc Déborah rend des oracles prophétiques, car c'est aux mains d'une femme que sera livré Sisséra. Ensuite, vous avez le récit du haut fait de Yael. Ce n'est pas Déborah elle-même qui agit, c'est une autre femme, Yael, qui invite l'ennemi sous sa tente, qui le fait boire, enfin qui le réconforte et qui le fait boire, qui le fait dormir, et une fois qu'il est mort, donc, qui le tue en lui enfonçant un piquet de la tente dans la tente. Et enfin, donc, troisième élément de ce récit fondateur, cette fois-ci au chapitre 5 du livre des juges, le cantique de Déborah. Alors, ce qu'on appelle cantique conventionnellement, c'est des poèmes chantés. Dans la version grecque de la Bible, c'est appelé des odes. Donc, les psaumes, c'est le chant accompagné à la cithare, ou à la lyre, et le cantique, donc, c'est plutôt de la prose rythmée, comme les odes, telles que l'entendaient les Grecs. Et donc, ce cantique de Déborah, c'est le plus ancien texte chanté, c'est le plus ancien exemple de poésie biblique que nous ayons. Et donc, on voit qu'il a servi de source, de point de départ à la pratique de la prière dans toute l'Antiquité suivante, et en particulier donc au cantique de Judith, qui en est la réplique plus ou moins au chapitre 16 du livre de Judith. Alors vous voyez donc que l'extrait que je vous ai donné du cantique de Déborah est extrêmement dur. C'est une idéologie ou une théologie militariste, violente, brutale, qui est très atténuée donc dans la reprise par le cantique de Judith. Vous retrouvez la même formule par la main d'une femme, mais oui, on ne décrit pas l'acte de mort, la mise à mort, avec le détail, c'est beau d'ailleurs comme expression, le détail et la brutalité donc du cantique de Déborah. Donc tout à l'heure, je disais que ce qui justifiait canoniquement l'intégration du livre de Judith dans les deutérocanoniques, c'était qu'il fournissait des modèles de prière. Et vous voyez que ces modèles de prière, donc, lui-même, il reprend, il y a un mouvement en aval et en amont. Et en amont, donc, vous avez dans les prières de Judith une reprise des psaumes, surtout de la prière d'action de grâce, celle du chapitre 15. Vous avez une reprise explicite, terme à terme, du cantique de Déborah. C'est ça qui fait fonctionner, qui crée le réflexe mnémotechnique, si vous voulez. Vous avez aussi des échos du cantique de Moïse au livre 15, donc au chapitre 15 du livre de l'Exode. Vous savez, cette belle formule, le cantique de Moïse, on le reprend dans la vigile pascale, en général. C'est la puissance éclatante de Dieu sur les Égyptiens, cheval et cavalier, tu seras, ton nom est le Seigneur. C'est ce qu'on reprend donc à la vigile de Pascal. Donc ça, c'est en amont. Vous voyez, la prière de Judith se nourrit de prières qui remontent donc au début de l'écriture de la Bible et à la fondation de liturgie, parce que bien entendu, ces cantiques ont un caractère liturgique. Et en aval, je dirais, en aval du cantique de Judith, vous trouvez le Magnificat de Marie, avec la formule, donc, il fera tomber les puissants de leur trône. Donc, vous voyez que l'essentiel de la leçon, c'est que la prière se construit dans la continuité, et en même temps, donc, dans la fidélité à l'Alliance et au Seigneur. D'un cantique à un autre, il y a un mouvement perpétuel. Donc, on passe du principe général que la lecture de la Bible dans l'Antiquité, et on essaie de le reprendre aujourd'hui, doit fonctionner par association, par intertextualité, et en même temps, donc, il y a à la fois reprise, continuité et actualisation d'une prière à une autre. Et c'est le quatrième point donc, que je voudrais aborder, de l'intertextualité à l'actualisation. Parce qu'en fait, pratiquer une lecture intertextuelle d'un livre biblique ou d'un passage biblique facilite une lecture actualisée. Si je commence par prendre le cas du livre de Judith, on peut dire donc que le livre de Judith tel qu'il est écrit, c'est la réactualisation romanesque d'un épisode biblique fondateur, que Dieu protège son peuple dans une invasion qui menace de le submerger. C'est ça la leçon donc du livre des juges qu'exprime le cantique de Déborah. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec Dieu protège son peuple en le faisant sortir d'Égypte et en arrêtant la poursuite de Pharaon, ce qui explique que le cantique de Déborah et le cantique de Moïse joue de façon complémentaire. Donc, le livre de Judith est une réactualisation d'un romanesque, d'un épisode biblique fondateur, même situation, invasion, péril d'anéantissement, et aussi les femmes au pouvoir. Déborah dans le livre de Judith, dans le livre des juges, Judith dans le livre éponyme. C'est aussi la même théologie dont on peut dégager trois traits. Dieu n'intervient pas directement ni miraculeusement. Le salut passe par un instrument humain. C'est ça le sens de la formule « par ma main, par ta main, par la main d'une femme ». Dieu protège son peuple, il est fidèle à l'alliance. Et enfin, le troisième trait qu'on trouve dans les deux livres, c'est la notion des délais de Dieu. La temporalité de Dieu n'est pas la nôtre. Et le salut, donc, adviendra quand il le voudra. Donc, à partir de là, comment peut-on envisager, considérer les fonctions premières du livre de Judith quand il a été composé? Il s'agit donc, je dirais, de faire une catéchèse. Il m'apparaît donc le rôle très vivant que fait jouer l'auteur quand Achior dit à Judith « raconte-moi » et qu'elle lui raconte tout ce qui s'est passé. On est dans l'ordre de la catéchèse, et d'une catéchèse faite par une femme, ce qui est intéressant. Donc, il y a une fonction catéchétique, il faut rappeler en l'actualisant la fidélité du Dieu d'Israël et son alliance. Deuxièmement, j'ai déjà envisagé, il s'agit de fournir un modèle en utilisant les leçons du passé. Alors, c'est un modèle de résistance, c'est clair, Judith. Mais comment l'apprécier? Est-ce un modèle de violence? Une justification de la violence religieuse? C'est la question qui se pose à cette époque-là dans le judaïsme, entre mourir pour Dieu, ou même tuer pour Dieu, ces mouvements zélotes, et ceux, au contraire, qui prônent un judaïsme intégré. Donc, un modèle de quoi? De résistance justifiant la violence? Un modèle de résistance au féminin, justifiant l'autorité, l'exercice du pouvoir par les femmes. On ne peut guère, c'est difficile de trancher. En tout cas, je pense qu'on peut dire plus clairement que disent la plupart des Bibles que le livre de Judith a une fonction liturgique. En effet, ces romans, ces histoires courtes, comme le livre d'Esther, entre autres, on les appelle des rouleaux, le livre de Ruth aussi. On les appelle des rouleaux, parce qu'ils tiennent juste sur un rouleau de papyrus ou de parchemin, et pas sur. Donc ce ne sont pas des textes très longs. Et des textes courts, donc, étaient destinés à être lus lors d'une liturgie synagogale. Alors pour Judith, alors on sait que le rouleau d'Esther était lu pour Pourim. Alors comme le rouleau de Judith, on ne sait pas quelle fête l'attribuer, on hésite beaucoup. Mais il est certain donc, que tout ce qu'il transmet comme modèle de prière et modèle d'être chrétien va dans mon sens, dans la perspective d'en faire un rouleau liturgique. Mais, donc, comme je disais, l'intertextualité, l'approche par l'intertextualité facilite une lecture actualisée. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer des premières lectures chrétiennes ? Là, je vous renvoie donc aux deux exemples que je vous ai donnés. Le témoignage de Clément de Rome, année 95, que j'ai abondamment cité, et la préface que Jérôme, qui a traduit la Bible en latin, comme vous le savez, c'est la Vulgate, a donnée au livre de Judith. C'est un des livres auxquels il a donné de l'importance, avec une préface donc, en conséquence, dont vous avez ici quelques extraits. Alors, ce qui frappe déjà, me semble-t-il, c'est que tous les deux, Clément de Rome, fin du 1er siècle, Jérôme, 4e siècle, s'intéressent à Judith. Toute leur attention, toute leur lecture du livre, donc, et sa traduction pour Jérôme, donc, s'est focalisée sur Judith, le personnage, la figure de Judith. L'exploit à la tête coupée, ça n'en parle plus. Donc, il y a un déplacement. Et si vous prenez donc le texte de Clément de Rome, vous voyez qu'on passe, l'intertextualité s'est jouée sur les nuances. On passe de la formule biblique par la main d'une femme et à la formule de Clément de Rome dans une main féminine. ce qui fait davantage ressortir l'adjectif, l'expression par une main féminine, ça fait davantage ressortir donc la question de genre, de différenciation par le genre. C'est un peu dépréciatif aussi une main féminine par rapport à une main masculine. Et là, on voit que pour le chrétien du premier siècle, il y a ce problème déjà avancé par Paul dans l'Épître aux Galates que vous allez travailler, enfin, lire ensemble aussi, je crois. Donc, accepter ou dépasser la différenciation par le genre, la différenciation, la discrimination entre hommes et femmes. Je crois qu'on peut aller jusque-là, donc, à propos de l'interprétation de Clément de Rome, parce que pour dans les cantiques de Judith, la femme est simplement un exemple de faiblesse. Dieu est le protecteur des faibles, Dieu défend les faibles, et donc la femme est parmi les faibles. Mais là, je crois qu'à l'époque de Clément de Rome, vous avez une insistance davantage portée donc, sur la question de la discrimination par le genre. Donc, Clément de Rome connaît la formule « par la main d'une femme ». Mais il la transpose, vous voyez, intertextualité, inscription dans une continuité et en même temps transposition. Donc il y a une acculturation de la figure de Judith. Elle est parmi les femmes qui ont accompli des actes virils. Ça, c'est une hellénisation de la figure de Judith. Judith ne dit jamais dans le livre biblique, enfin deutérocanonique, qu'elle accomplit des actes virils. Mais la femme virile, ça devient un stéréotype, une figure, là encore, populaire au premier siècle de notre ère, à l'époque de Plutarque, qui a écrit un dialogue donc consacré aux femmes viriles. Donc, cette association, cette interprétation que fait là Clément de Rome est évidemment donc un indice de l'acculturation dans la lecture qu'on faisait, d'hellénisation, dans la lecture qu'on faisait du livre de Judith. Il y a aussi une christianisation qui doit vous être évidente. Dans le second paragraphe de Clément de Rome, Judith devient une figure de l'agapé. L'agapé, c'est le concept clé du christianisme, le concept relationnel clé du christianisme, qu'on traduit le moins mal possible, je dirais, par amour mutuel. L'agapé, c'est la relation des personnes divines au sein du monothéisme trinitaire. C'est la relation du croyant avec Dieu et avec le Christ. C'est la relation des croyants entre eux dans les épîtres pauliniennes. Donc c'est vraiment le concept clé du christianisme. Et Judith en est l'incarnation. C'est complètement anachronique, évidemment. Et cette christianisation, donc, va jusqu'au don de soi, ce qui suggère donc une identification discrètement, une imitation du Christ. Et Luther y a été sensible à cette christianisation de la figure de Judith. Et Luther, quand il parle donc du livre de Judith, dit qu'il y voit une préfiguration allégorique de la passion du Christ. Donc vous voyez, hellénisation, acculturation, christianisation, politisation aussi. Pour Clément de Rome, Judith est une héroïne patriotique, celle qui accepte de mourir, enfin, ou de prendre des risques plutôt, pour sa patrie et pour le peuple de Dieu. Ça, c'est la rhétorique, enfin, c'est le patriotisme caractéristique des cités du monde grec et du monde romain. Et surtout, donc, la contextualisation de Clément de Rome est tout à fait intéressante. À savoir que, témoignant d'une lecture qui est centrée sur Judith et pas du tout sur l'exploit donc d'avoir coupé la tête à Holoferne, il n'insère pas le personnage de Judith dans un ensemble de grandes figures de femmes bibliques, par exemple, alors qu'il a une très très bonne culture biblique, hein, Clément de Rome, mais dans des héros du paganisme, dans des héros du monde gréco-romain, ceux qui ont été capables de donner leur vie pour leur peuple. Et il en fournit deux cas, ceux qui ont accepté l'exil volontaire pour éviter la guerre civile au sein de leur communauté. Ça, c'est une situation typiquement grecque que Paul exploitera dans l'Épître aux Romains, d'ailleurs au chapitre 15. Et ceux donc qui s'offriront à la mort pour le salut de leur peuple. Et ça, au contraire, c'est une donnée religieuse proprement latine. C'est la pratique de la dévotion, se vouer au Dieu en acceptant de se sacrifier jusqu'à la mort. C'est Coriolan, c'est Mucius, c'est Vola, alors que l'ennemi est à vos portes, vous presse, et pour obtenir le salut de votre peuple. Donc, on peut dire que dans ce contexte, Clément de Rome nous présente Judith comme une figure de convergence et plus du tout donc de résistance, de résistance à l'hellénisme, une figure que peuvent comprendre les Grecs et les Romains aussi bien que les Juifs pour qui avait été écrit le livre. La préface de Jérôme, je passerai plus vite. Vous voyez que là, il ne s'agit plus de l'exploit de faire le salut de son peuple par la violence, il ne s'agit plus de donner sa vie. Pour Jérôme, donc la figure de Judith lui permet de faire l'éloge de l'ascétisme. Ce qu'il retient de Judith, c'est qu'elle est veuve. Donc si elle est veuve, elle est chaste. Et donc c'est l'éloge d'un christianisme ascétique qui va marquer donc le 4e siècle après l'arrêt des persécutions. Alors il n'invente rien. C'est déjà en germe dans le livre de Judith. Et comme je vous disais, elle ne vit plus dans une maison, elle fait retraite sur un pavillon sur le toit de sa maison, elle porte un cilice. Mais on voit donc une évolution de l'idée de résistance et de défense du christianisme. Ce n'est plus une résistance extérieure contre l'ennemi persécuteur, c'est une résistance intérieure, finalement, que cet éloge de l'ascétisme et de la chasteté et de la retraite, c'est une résistance intérieure à la sécularisation. C'est garder donc la force et l'intégrité de son christianisme. Alors, pour finir, donc, et aujourd'hui, quelle lecture, puisque l'intertextualité permet toujours donc de renouveler la lecture d'un livre biblique, et puis réellement celui-là, et aujourd'hui, quelle lecture peuvent s'ouvrir du livre de Judith. Évidemment, vous devez m'attendre au tournant, il y a la question du féminisme. Je vous citerai pour sourire quand même un livre paru dans les années 94, oui, qui était intitulé, évidemment, de théologienne américaine féministe, qui était intitulé Féministe Companion à Judith, Esther et Suzanne. Et c'est vrai, donc, dès ses débuts, Le mouvement féministe américain, chrétien américain, s'est intéressé au livre de Judith. C'est sans doute actuellement un débat un peu dépassé, surtout dans le cas des livres comme Judith, plus que des livres du Nouveau Testament. Parce qu'en fait, le raisonnement des féministes, si j'ose dire, est circulaire et il reste très théorique et très systématique. Le raisonnement, c'est que tous les livres qui exaltent des figures féminines importantes dans la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, sont soit des livres deutérocanoniques, comme le livre de Judith, soit surtout des livres apocryphes pour l'époque chrétienne. Donc, elles y voient la preuve indirecte que si ces figures de femmes fortes, de femmes détentrices d'autorité dans la Bible, sont toujours dans des livres soit de niveau de canonicité secondaire, soit dans des livres exclus, comme les apocryphes chrétiens, c'est la preuve indirecte qu'il y avait un moment où véritablement la situation des femmes était importante. Mais comme on ne peut pas, comme je vous l'ai dit, contextualiser précisément le livre de Judith, on ne peut pas aller plus loin et finalement c'est un combat un peu dépassé. Le fait de ne pas pouvoir contextualiser la situation des femmes à l'époque du livre de Judith ne permet pas donc de vérifier cette hypothèse que le livre de Judith témoignerait d'un féminisme, ne permet pas de le vérifier dans l'histoire. Alors, À la lumière des interrogations que posent les religieux aujourd'hui, dans un contexte comme celui de l'Antiquité, de cohabitation et de pluralisme religieux, il me semble que le livre de Judith, il me semble, peut être avoir la fonction d'interface. Une interface qui résulte justement de ces lectures croisées, différentes et croisées, que j'ai essayé de mettre en évidence. D'abord, une interface entre chrétiens et juifs, qui nous rappelle la matrice juive du christianisme, comme nous demande de le faire, là encore, la constitution d'Ostra Aetate du Concile Vatican II. Et le livre de Judith, comme tous les autres deutérocanoniques, donc des livres juifs, mais gardés par la tradition chrétienne, ce statut particulier nous rappelle la matrice juive du christianisme. Mais plus largement, je dirais, le livre de Judith peut jouer peut-être ce rôle d'interface, parce que c'est un livre qui définit l'identité religieuse. Et on peut élargir. Bon, le livre de Judith, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon juif ? Qu'est-ce que c'est que croire et vivre en juif ? Mais on peut élargir. Il définit l'identité religieuse en prenant l'autre en compte. Judith construit son identité religieuse avec et contre d'autres, jamais toute seule. Elle se pose vis-à-vis d'Achior et même vis-à-vis d'Holoferne. C'est-à-dire que même si l'image de violence est forte et peut-être choquante pour nous, surtout aujourd'hui, tout ne se réduit pas à la violence. Judith professe et pratique sa foi face à Achior et même face à Holoferne. Et dans une situation qui est tout à fait particulière et finement définie. On peut remarquer au chapitre 12 que Judith, c'est ce qu'on appelle dans les découpages des péricopes, le banquet d'Holoferne. Au chapitre 12, donc, Judith et Holoferne mangent ensemble. Ils mangent ensemble, mais pas l'un avec l'autre. Ils mangent ensemble, en même temps, ils partagent le même moment de boire, de manger, de parler. Mais ils sont, le texte le répète sans cesse, en vis-à-vis. Ils sont en vis-à-vis, face à face, mais pas avec. C'est-à-dire qu'ils ne partagent rien. Ils mangent ensemble, mais ils mangent une nourriture différente. Ils mangent ensemble, mais ils utilisent une vaisselle différente, tout ça c'est la cache-route, et même ils sont dans un lieu différent. Ils sont dans une même pièce, mais chacun sur un tapis différent, chacun dans un espace circonscrit et isolé par son tapis. C'est ce qu'on peut appeler donc une convivialité sans commensalité. On est ensemble, mais on ne partage pas vraiment, pas de commensalité. Et là, donc, on voit un rapport du croyant à l'autre qui est tout à fait nuancé, difficile d'ailleurs et nuancé, ensemble mais pas encore avec, c'est un peu la perspective que Jean-Paul II a livrée, avancée et assise avec les prières et les réunions d'assises. Je vous remercie. Un peu plus fort, vous voyez.
J'aurais bien aimé savoir ce que vous pensez de l'interprétation que fait Léon Blois du livre de Judith. Je ne sais pas si vous la connaissez. Enfin, il refait de la
vous ne voulez pas vous lever et parler un peu plus fort? Franchement, là, ça fait de la distance.
J'aurais bien aimé savoir ce que vous pensez de l'interprétation de Léon Blois contre le livre de Judith. Parce qu'il en fait, en fait, une espèce de réécriture de la
question. Il a fait quoi?
Oui,
bon, moi, je connais, mais... Enfin, je connais, oui.
Il explique que c'est le lien qui vers le Christ et que Judith prévoit la Vierge Marie. Et notamment autour du thème du vin que vous avez un peu commenté tout à l'heure et celui de la passion, parce qu'en fait, je crois que au moment où Judith arrive, les habitants de Judith sont en une vague. Et c'est au lien qui est
Je crois qu'on est là dans la perspective ancienne et, enfin, de traitement allégorique. C'est-à-dire on envisage ces livres que sous l'angle de leur conservation par les chrétiens et de leur intégration donc dans la révélation chrétienne. J'ai dit pour vous faire davantage rire par rapport en utilisant du thème, c'est la même chose en fait. Hein. Et c'est peut-être un point de vue qu'on a moins aujourd'hui. Donc pour les Hongrois comme pour les autres, ces livres existent parce qu'ils ont été christianisés. Alors que dans, aujourd'hui, encore une fois, après Vatican II et Nostra Aetate, tout parti Nostra Aetate, où on regarde d'une autre façon donc le judaïsme et qui est quand même défini comme notre frère aîné, comme la matrice des chrétiens, on voit les choses différemment et on essaie une lecture croisée. Donc c'est une question d'époque, si vous voulez. Ça, pour moi, c'est une interprétation très vieillie, c'est normal d'ailleurs. Le rapport interreligieux a considérablement changé depuis Vatican II, et ça se retrouve donc dans l'interprétation qu'on donne de ce livre.
Moi, ça serait vraiment sur un point de détail de votre exposé.
Je vous en prie, je suis là pour ça.
Vous avez dit à un moment, vous avez parlé du cantique de Déborah, vous avez dit que c'est un des plus anciens morceaux de la Bible.
C'est le plus ancien.
C'est très intéressant ce que j'avais entendu, mais peut-être j'avais mal écouté ou autre, que justement, on parlait aussi du cantique de Moïse, que vous avez évoqué juste après, comme un des plus anciens morceaux. Et alors, peut-être pas le plus ancien par rapport au cantique de Déborah. Même si dans l'ordre du récit, il est antérieur, mais ça, c'est une autre question. Mais du coup,
non, vous avez raison. Ben, ça revient. Le cantique de Moïse, dans les analyses, on l'isole moins. D'accord. Du texte, on l'isole moins de l'ensemble du livre que le cantique de Déborah. Le cantique de Moïse, on le situe dans l'ensemble de la rédaction de la Torah.
D'accord.
Donc, en principe post-exilique. C'est un peu pareil, si vous dans le Nouveau Testament, avec le cantique de l'épître aux Philippiens de Paul, hein, l'hymne au Christ, que moi, je n'ai pas un niveau d'exégèse suffisant pour cela, mais je veux dire, il y a des textes qui, pour les spécialistes, paraissent vraiment indépendants du livre où on les a réintégrés, comme donc ce cantique, l'hymne au Christ au début de Philippiens, et le cantique de Déborah. Puis d'autres au contraire qui paraissent résulter donc d'une écriture d'ensemble du livre de l'Exode. Et c'est cela donc pour le cantique de Moïse.
Et par curiosité, de quand daterait le cantique de Déborah, les exégètes ne sont jamais d'accord, mais enfin.
Mais pré-exilique. C'est ça les grandes ruptures maintenant. Hein.
Oui.
Ce qui est écrit autour de l'exil et ce qui est écrit avant. Oui.
Oui, ma question porte sur un acte important quand même pour lequel Judith est glorifiée, qui est quand même un assassinat.
Un égorgement.
Et je me demande comment c'est conciliable avec la lecture pieuse que vous avez dégagée du roman comme un roman pieux, voire missionnaire. Comment les premiers chrétiens et les pères de l'Église lisaient cet égorgement? Est-ce que ça les dérangeait ou pas du tout? Est-ce qu'ils en faisaient une lecture allégorique, quoi?
Pas du tout. Tout à l'heure, il a été fait allusion à la traduction liturgique de la Bible, c'est-à-dire ce qui est utilisé pour la messe, pour le lectionnaire de la messe des dimanches. Et puisque depuis cette semaine, d'ailleurs, on fait circuler maintenant comme une Bible parmi les autres, comme une édition disponible de la Bible, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde les choses et est-ce qu'on regarde le texte en fonction donc de la situation où nous sommes nous aujourd'hui, ou est-ce qu'on la regarde? Donc, c'est pour ça que, quand même, il faut toujours souhaiter une contextualisation minimum, ou est-ce qu'on la regarde donc du point de vue donc des contemporains dont le texte a été écrit. Et c'est vrai, donc, j'ai peut-être dit de façon un peu trop amusante et donc pas assez précise tout à l'heure, le coupeur de tête ou la coupeuse de tête, s'il y a un féminin, c'est vraiment une figure, populaire, quoi, une figure noble et populaire de l'antiquité, de l'antiquité hellénistique, hellénistique et romaine. C'est comme ça aussi qu'on commence à lire la décollation de Jean-Baptiste dans le récit qu'en donne l'évangile de Marc. Et encore, on peut renvoyer à Plutarque, on peut renvoyer à Bella Maxime chez les Latins. Donc, c'est une figure positive.
Est-ce que ça ne contredit pas le commandement « tu ne tueras point » pour les Juifs? Parce que pour les Grecs, je comprends, mais pour les Juifs.
Mais de toute façon, je pense que c'est justifié par le côté sacrificiel. L'égorgement renvoie à la pratique du sacrifice, victime animale ou victime humaine. Qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Il va égorger son fils. Il est prêt à égorger son fils. Donc c'est pas une mort. En un sens, je dirais que, enfin, je peux me mettre dans la peau des gens de l'Antiquité, mais bon, que la mort de Cicéna, transpercée par un piquet, c'est plus scandaleux. C'est une mort brutale, animale. L'égorgement, dans la mentalité antique, l'égorgement de l'offerne est quelque chose de sacrificiel. Alors maintenant, ça nous ne le comprenons pas, mais il n'y a pas eu un renversement des valeurs antiques. Seulement dans la tradition liturgique de la Bible, on se pose la question aussi de l'esclavage. Et dans le livre de Judith, de l'esclavage des enfants. Et ça a posé un problème. Voilà sur le problème de traduction qu'on est amené à se poser. Judith, accompagnée sans cesse par une paille disquée. Il y a des hellénistes parmi vous? Donc, paille disquée, c'est l'enfant esclave. Hein. C'est l'enfant qui n'est pas une adolescente, donc elle a moins de 13 ans. Alors maintenant, on dit c'est pas possible, jamais, paille disquée, l'enfant esclave, ça apparaît encore dans l'évangile de Luc à plusieurs reprises, et dans les Actes des Apôtres aussi. Un public aujourd'hui ne peut pas entendre parler d'enfant esclave, que ce soit toléré, et que les chrétiens le tolèrent comme les autres. Ben, c'est quand même vrai.
J'avais une question encore sur la figure de
vous voulez pas enlever votre masque, je serais plus comme.
Cette vision très héroïque et très positive de Judith, qui est quand même l'instrument utilisé par Dieu pour sauver le peuple, enfin, tous ceux qui habitent avec lui. Et puis, donc c'est celle qui incarne la Judée. Mais en même temps, elle semble être un peu inquiétante, puisqu'elle agit par la ruse. Et puis, il y a tout un passage qui insiste sur la manière dont elle se maquille, dont elle se cache, et quand on sait après. Comment les pères de l'Église considéraient le maquillage et la parure, qui n'étaient pas très positives. On a l'impression d'une peur aussi de cette facette séduisante de la femme. Mais comment est-ce qu'on peut interpréter, comprendre cette figure de Judith qui est un peu ambivalente, alors que par exemple la figure d'Esther est beaucoup plus uniforme?
Moi, ça c'est les commentaires un peu anciens, là, donc. Enfin, un peu anciens. Donc vous faites écho? Pour moi, ça trouve parfaitement son explication dans le genre romanesque. Une héroïne de roman, elle est comme ça. Elle se maquille, il y a la scène, les scènes de ça fait partie, coquetterie, séduction, sexualité, un petit peu, pas trop d'ailleurs. Bon. Alors après, il y a des commentaires symboliques, oui, que Judith change. Passe donc du sac de pénitence dont elle était vêtue à cette femme coquette. Mais pour moi, ces problèmes que posaient les éditions anciennes du livre de Judith, c'est un peu des faux problèmes. C'est écrit comme un roman, et pour les gens de l'époque, comme un beau roman. Moi, c'est la réponse que je donnerais. Donc, chercher absolument de l'allégorie, comme tout à l'heure, comme vous le disiez, de l'allégorie partout, et une préfiguration, donc, la construction des valeurs chrétiennes partout, je ne sais pas si c'est tellement nécessaire.
Qui puisse être une héroïne dans un roman grec ou romain. Donc comment est-ce qu'on peut le comprendre dans ce roman?
Si toutes les héroïnes de romans grecs sont séduisantes, Chariton, enfin elle est aussi belle qu'Aphrodite quand les gens la regardent. Oui, je suis là. Soyez gentils, levez-vous et descendez, parce que vraiment c'est un peu. Dans la catégorie des. De la.
Félix Culpa.
De la quoi?
Félix Culpa.
Je me sens un peu dépassée, même très clairement dépassée. Je pense que la question de fond, c'est est-ce qu'on lit Judith, même un truc. Pour un croyant catholique que nous sommes, vous et moi, est-ce qu'il lit Judith uniquement en le tirant vers la théologie, la morale catholique, ou est-ce qu'il le lit, oui, c'est peut-être ma lecture personnelle que je vous ai proposée, ou est-ce qu'il le lit donc de façon croisée entre judaïsme et christianisme? Je pense que c'est ça le fond du problème. Je suis pas très bien dans vos références, mais je me dis justement, on n'est pas tout à fait dans le même, apparemment dans le même ordre de référence et de même ordre de référence. Donc c'est là qu'elle fait, c'est ça qu'elle nous du problème.
Vous disiez tout à l'heure que l'égorgement a une connotation sacrificielle, mais alors le sacrifice de quoi? Je comprends très bien, parce que vous, d'un côté, j'ai l'impression que vous voulez éviter les lectures trop allégoriques, quel est le sacrifice ici, si on n'en voit pas une allégorie du sacrifice du Christ?
Comme, de toute façon, les Juifs sacrifiaient. Qu'est-ce qui se passait à l'hôtel de Jérusalem? Ils sacrifiaient, ils égorgeaient des moutons. Donc elle sacrifie Holoferne, comme on sacrifiait un mouton, une chèvre au temple de Jérusalem.
Ok. Mais donc, quand on sacrifiait un mouton, une chèvre, c'était, je crois, pour le rachat, dans un but de justice, au moins.
D'établir une relation avec la divinité, avec Dieu, c'est ça.
Et donc là aussi, c'est le but du sacrifice de l'offerne, c'est d'établir une relation avec la divinité.
Avec Dieu, oui.
Il y a le rachat des péchés, parce qu'il me semble que la population de l'Écumie ne respecte plus les commandements de Dieu, en fait. Donc, il y a cette...
Mais justement, il y a toute une discussion, justement, sur les raisons de la guerre. Est-ce que la guerre est un châtiment divin? Est-ce que donc il faut expier? C'est pas un sacrifice expiatoire, la mort d'Holoferne. Et ça, c'est clairement dit dans le livre de Judith. La guerre n'est pas châtiment divin. Et il ne s'agit pas d'expier les péchés du peuple. Ça, cette idée-là, vous l'avez dans le deuxième livre des Maccabées. Oui ?
Dans la même lignée.
Vous enlevez votre masque.
Oui. Donc, dans la même lignée, moi, je me demandais effectivement si c'est un sacrifice. L'idée d'un sacrifice, c'est quand même d'offrir quelque chose à Dieu, quelque chose qu'on a, quelque chose de bien, de bon. Mmh. Mais là, elle offre pas quelque chose qui est à elle, elle offre la vie de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme le sacrifice, c'est pas prendre la chope du voisin et la mettre au temps. C'est...
Elle lui offre la tête de son ennemi, ben c'est pas mal.
Elle ne s'occupe pas quelque chose de bien, elle ne s'occupe pas d'un bien.
Comment ?
Il y a un sacrifice, c'est quand même se priver d'un bien.
Oh non. Non, c'est pas du tout. Non, pas du tout.
Dans la Bible, il n'y a pas des sacrifices.
Non. Ah ben il y a, oui. Il y a le couple, qui, comme dans l'évangile de Luc, les deux oiseaux, les deux petits oiseaux, qu'offrent un couple qui n'est pas très riche.
Bah, ils offrent quelque chose qui...
Attention, vous avez un passage évangélique dans la tête et celui de l'aumône de la veuve au temple. L'aumône, c'est encore autre chose, là. C'est pas un sacrifice, l'aumône.
Non, mais je parle pas que de l'aumône, je parle d'Abraham. Pourquoi est-ce que c'est un sacrifice? C'est pas parce qu'il tue juste n'importe quel être humain, c'est parce qu'il tue quelqu'un qui... parce qu'il est bon, il tue pas d'ailleurs... Il est prêt à offrir à son
ennemi. Ah, c'est le sacrifice suprême, oui.
C'est de donner au bien.
M'offrir la tête de son ennemi.
Mais l'idée, c'est de donner un bien. C'est pas supprimer un mal, tu vois, c'est quoi.
Est-ce que supprimer un mal, c'est pas un bien? Je vois pas la différence que vous faites. Évidemment, donner son fils, c'est sacrifice suprême. Ça, c'est sûr.
Oui, mais moi, je crois que le sacrifice, c'est quand même l'idée de donner un bien. C'est pas... Parce que là, elle était juste... Oui, non mais ok.
Merci beaucoup, madame. Effectivement, vous en avez parlé au début de votre conférence. On commence un cycle de lecture biblique. Donc, voilà, c'est une conférence comme nous l'espérons. Vous avez donné envie de lire le livre de Judith, si vous ne l'aviez pas déjà fait. Sachez que la semaine prochaine, il y a une conférence sur le livre d'Isaïe, un autre livre dont l'accès est difficile. Vous n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail en sortant pour être tenu au courant de tout le programme. Il y aura une affiche bientôt qui détaillera tout le programme de ces conférences sur différents livres de la ville. C'est toujours le jeudi soir, mais ce ne sera plus en salle du SAD. C'est à Saint-Étienne-du-Mont à 21h30. La soirée va se poursuivre un peu plus loin que prévu, parce que nous avions la rotonde réservée avec beaucoup d'enthousiasme cet été, mais nous n'avons plus le droit de partager un repas dans l'ensemble de l'ENS. Donc nous allons filer à Saint-Germain-des-Prés pour un repas dans la convivialité, mais non pas dans la commensalité.
Ah ben si, j'espère les deux quand même.
J'espère que vous ne maîtriserez pas la même décès que votre voisin et que vous respecterez un espace.
Ah oui, ça, il y a une distanciation.
C'est différent. Voilà. Je crois que j'ai la présentation. Merci encore d'être venu. Merci.